Voici une question dont la réponse est la solution pour transformer une vie. Que faut-il faire pour recevoir le pardon de Dieu? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse qu'il ne faut surtout pas manquer aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a encore de bonnes questions à poser aux Saintes Écritures aujourd'hui. Et j'ai bien hâte d'entendre les réponses qu'on va trouver dans la Bible. Voici nos questions. Qu'est-ce qui intéresse Dieu en ce qui nous concerne? À qui est-ce que Dieu a confié la proclamation de sa parole? Quel est le besoin le plus urgent de nos églises aujourd'hui? Qu'est-ce qui arrive quand on suit les instructions de Dieu? Est-ce que la joie des chrétiens contribue à attirer les gens au Seigneur Jésus? Est-il important de servir Dieu avec enthousiasme? Quelle est la solution de Dieu au problème du cœur de l'homme? Demeurez à l'écoute. Je suis certaine qu'on va recevoir tout un enseignement du Seigneur par la bouche du pasteur Régent Joly aujourd'hui. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il nous dispose à bien comprendre ce qu'il va nous enseigner. Prions. Oui, Seigneur, on a toujours besoin que ce soit toi qui nous dispose. Humainement parlant, on est porté à penser à toutes sortes de choses. Aide-nous à faire abstraction de notre quotidien, de nos soucis, de tout ce qui pourrait nous empêcher d'entendre ton beau message pour nous. Et parle à nos cœurs. Enseigne-nous toi-même ta parole. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu qu'une bonne œuvre peut être faite ou entreprise de la mauvaise façon. David a voulu transporter l'arche à Jérusalem, mais l'Éternel a fait périr Uzza parce qu'il a mis la main sur l'arche de Dieu. Elle était transportée sur un char alors que Dieu avait ordonné à Moïse qu'elle soit toujours portée par des Lévites de la maison de Kehath. Tout comme des hommes devaient porter l'arche, de même, nous sommes appelés à porter l'Évangile partout dans le monde. Nous devons tous faire notre part afin de proclamer l'Évangile. Comme David a consulté Dieu avant de s'avancer contre les Philistins, de même, nous devons le consulter avant d'entreprendre des projets. Souvent, ce que l'on appelle faire un saut de foi est tout simplement de la prétention, chers amis. Nous agissons sans bien réfléchir et nous affirmons marcher par la foi. Nous tentons Dieu en l'obligeant à nous sortir du pétrin. Dieu s'intéresse au cœur des siens avant même la politique. Les chapitres 13 à 16 traitent de David et du transport de l'arche à Jérusalem. Notez que ces chapitres ne nous donnent pas un rapport de ce qui se passe au gouvernement, des ententes commerciales signées, de décisions prises par David ou des guerres qu'il a faites. Le contenu de ces chapitres ne ressemble en rien à ce que nous aurions sur des bulletins de nouvelles à la télévision. Nous voyons que Dieu n'attache pas d'importance aux mêmes choses que les hommes. Dieu est beaucoup plus intéressé à une relation de cœur avec les hommes et à l'adoration. Il ne cherche pas de membres pour un parti politique, mais des adorateurs, avec qui il peut être en communion et qu'il peut bénir. Souvent, nous attachons de l'importance aux choses passagères. Le palais de Napoléon à Paris, un bâtiment qui a fourmillé d'activités autrefois, est un musée aujourd'hui. Il n'y a plus de décisions importantes prises dans ce bâtiment aujourd'hui. Il en est de même pour le palais de Versailles. C'est un superbe bâtiment, mais il est maintenant une attraction touristique. Qu'est devenu le tabernacle? C'était une tente fabriquée de tissus et le matériel a dû s'user. Les planches couvertes d'or, les piliers d'airain et les bases d'argent furent probablement portés par les Philistins. La Bible rapporte seulement ce qu'est devenu l'arche, l'item important du tabernacle. Pourquoi? Parce que le propitiatoire était monté sur l'arche. c'est l'endroit que Dieu avait choisi pour manifester sa présence en Israël. C'est là qu'il rencontrait son peuple. Êtes-vous venu à Jésus-Christ pour recevoir la miséricorde de Dieu? Chers amis, il est important, pour vous et moi, que nous ayons un endroit où recevoir la miséricorde de Dieu. Nous en avons tous besoin de cette miséricorde. Dieu est disposé à nous l'accorder aujourd'hui, car il a un propitiatoire pour nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2. Le Seigneur Jésus-Christ est la victime qui fut sacrifiée pour nos péchés. C'est ainsi que la colère de Dieu est détournée du pécheur repentant. C'est ce qui a de l'importance aux yeux de Dieu. C'est ce qui est important. Ce n'est pas ce que nous entendons à la télévision, ni les décisions du gouvernement, mais les décisions de Dieu. Prêtez oreille à ce que Dieu est en train de dire présentement, à travers son texte, ses émissions. Le premier essai pour transporter l'arche de Dieu à Jérusalem échoua parce que les instructions de Dieu ne furent pas suivies. Il n'y avait pas de façon plus facile pour le faire que de suivre les directives de Dieu. Il en est ainsi avec la parole de Dieu aujourd'hui. Trop de personnes pensent que l'œuvre de Dieu doit être un pique-nique et quelque chose d'agréable. C'est merveilleux lorsque quelqu'un sert le Seigneur par amour pour lui. C'est toujours une expérience excitante. Mais cela ne rend pas le travail facile. C'est au peuple de Dieu de proclamer sa parole. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Dieu bénit la proclamation de sa parole, mais il faut des prédicateurs. De plus, Paul nous dit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Dieu a confié la proclamation de sa parole à des humains. Il n'écrit pas son message dans le ciel. Il s'attend à ce que nous le prêchions. Autour de nous, nous ne voyons que de l'agitation et de l'inquiétude. Les églises qui ont délaissé la parole de Dieu ne sont pas dans un meilleur état que le monde. Parce que des confessions religieuses majeures se sont éloignées de la parole. Leur théologie est confuse. Elles ne fonctionnent plus selon les directives de Dieu. Le besoin le plus urgent est de mettre l'arche de Dieu en marche, c'est-à-dire ramener l'Évangile en avant-plan et le proclamer haut et fort. Mettons l'accent où Dieu le met. Maintenant, David va transporter l'arche à Jérusalem, mais il s'y prendra de la bonne façon cette fois-ci. Débutons notre lecture. 1 Chronique, chapitre 15, verset 1er. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Les maisons que bâtit David, son projet de développement urbain, ont dû être considérées importantes par de nombreuses personnes. Cependant, pour Dieu, l'important est l'aménagement d'une tente pour l'arche de l'Alliance. Verset 2. Alors David dit, « L'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. » En suivant les instructions de Dieu, nous nous épargnons bien des ennuis. Voilà ce que David aurait dû faire la première fois. Il se serait épargné de vivre une expérience difficile et triste. Mais la plupart d'entre nous apprenons de cette façon. L'expérience est un meilleur guide que les prévisions. Nous apprenons tous de nos expériences, surtout de nos erreurs. Nous ne pouvons rien reprocher à David, puisque nous faisons exactement comme lui. Verset 3. Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David a cru qu'il était important de rassembler tout Israël pour transporter l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Dieu le pensait aussi. C'est pourquoi l'événement est enregistré dans les Écritures. Maintenant, David se prépare à transporter l'arche de la façon prescrite par Dieu. Verset 4. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites. David confia le déplacement de l'arche aux sacrificateurs et aux Lévites désignés pour le faire. Nous passons aux versets 11 et 12. David appela les sacrificateurs, Tsadok et Abiathar, et les Lévites, Uriel, Azaja, Joël, Shemaéja, Eliel et Aminadab. Il leur dit, « Vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. » David avait préparé une place pour l'arche, mais l'endroit n'est pas clairement identifié. Était-ce dans l'aire d'Arafna, le Jébusien? Plus tard, il acheta cette aire pour la construction du temple. Cette aire était située sur le sommet du mont Morija, qui traversait Jérusalem. C'est là qu'Abraham amena Isaac pour l'offrir en sacrifice. Mais Dieu intervint et retint sa main. À Golgotha, l'endroit où fut crucifié Jésus, se trouve sur le même sommet. Je pense que l'endroit que David a préparé pour l'arche se trouvait sur le mont Morija. Verset 13. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Rappelez-vous que David fut en colère contre Dieu la première fois. Il blâmait Dieu pour l'échec. Cependant, maintenant David sait qu'il était dans l'erreur. Verset 14. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Notez l'expression « l'arche de l'Éternel ». Répétez à quelques reprises. Cette arche était importante aux yeux de Dieu. Verset 15. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Les instructions pour transporter l'arche se trouvent dans le livre des Nombres, chapitre 4, verset 15. David était un musicien, et le tout se déroula au son d'une musique invitant à la célébration. Verset 16. Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères, les chantres, avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. David voulait la participation de nombreux musiciens. Il lui fallait un orchestre et une chorale. L'entrée de l'arche à Jérusalem était un jour solennel. Notez que dans le livre des Chroniques, Dieu ne parle pas de la conquête de Jérusalem, des détails, du plan de développement urbain de David. Dieu met l'accent sur les éléments spirituels de la vie de David et de l'histoire d'Israël. J'espère que nous avons des oreilles pour entendre. Verset 25. David, les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom au milieu des réjouissances. Quelle belle journée! Nous voudrions tous y être, mais on peut encore se réjouir aujourd'hui du fait que Dieu est présent parmi nous. Verset 26. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel, et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. Ces sacrifices sont une image de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Versets 27 et 28. David était revêtu d'un manteau de byssus. Il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche des chantres et de Kenania, chef de musique parmi les chantres. Et David avait sur lui un éphod de lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son des clairons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harpes. ce fut, je le répète, toute une journée.
Notre joie chrétienne attire-t-elle les gens au Seigneur Jésus? Tout se fit dans la joie et avec de la musique. Ce fut une grande célébration.
Une des raisons que nos églises sont mortes et que les gens n'y viennent pas, c'est qu'il n'y a pas de joie. Regardez les personnes qui vont à l'église de nos jours et notez combien peu sont dans la joie. Par contre, regardez la foule qui assiste à un match de baseball. Et vous ne voyez que des visages joyeux, quelle que soit l'équipe gagnante. Tous semblent s'amuser. Les chrétiens ne semblent pas avoir du bon temps avec Dieu. Pourtant, ce devrait être le cas.
De nombreux visiteurs à Jérusalem ont dû rapporter les événements de ce jour à leur retour dans leur pays. On a dû parler du transport de l'arche dans de nombreux pays.
De retour chez eux, les visiteurs ont dû dire « Ah, oh, vous auriez dû être à Jérusalem avec moi. Ce fut une journée merveilleuse. Vous avez manqué vraiment quelque chose. »
Dans les bulletins de nouvelles, à la une des journaux, nous ne voyons jamais d'événements spirituels ou de célébrations faites avec joie dans le Seigneur.
Cependant, s'il y a des incidents religieux insolites, aucun dérangé se prend pour un prophète, cela fait la une. Nous ne parlons plus de ce qui est spirituel et de ce qui devrait faire la joie dans nos médias.
Ce n'est pas tout le monde qui s'est réjoui des actions de David au cours de cette journée.
Lisons le 29e verset. Comme l'arche de l'Alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Et voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. Michal était la fille de Saül, et elle fut la première épouse de David. Elle a vu son mari exprimer son enthousiasme, et elle s'est dit, « C'est un fanatique religieux. »
Mais nous avons besoin de chrétiens comme David, qui ne craignent pas d'exprimer leur joie dans le Seigneur.
C'est le message qui ressort de ce chapitre. Poursuivons notre lecture. Lisons 1 Chronique, chapitre 16.
Dans ce chapitre, nous voyons que l'arche est placée dans la tente que David avait aménagée pour celle-ci, et ensuite David a commencé les préparatifs pour la construction d'un temple.
Lisons les versets 1 à 3.
Après qu'on eut emmené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin.
Tout le peuple s'est réjoui à cette occasion, chers amis. Tout le peuple.
Les holocaustes illustrent ce que Dieu voit en Jésus-Christ. On offrit aussi des sacrifices d'action de grâce, qui illustrent le Seigneur Jésus qui a fait la paix avec Dieu, en versant son sang pour nous à la croix. Lorsque nous venons à Dieu, en passant par Jésus-Christ, tout va bien entre nous et Dieu qui nous accueille. C'est sous cette forme qu'est présenté l'Évangile dans l'Ancien Testament. Ces sacrifices illustrent la glorification du Seigneur Jésus et le fait qu'il a répandu son sang en sacrifice.
Verset 4.
Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Servons-nous avec enthousiasme. Nous devons nous impliquer dans l'œuvre de Dieu, à tel point que nous servirons avec enthousiasme.
Même ici au Québec, nous employons le mot « fan » pour décrire un partisan, soit d'une équipe de hockey ou de football. Ces fans sont très enthousiastes.
Cependant, lorsque nous avons de l'enthousiasme pour Dieu, étrangement, cela devient du fanatisme.
Bien, nous n'avons pas besoin de fanatiques. mais nous avons besoin de croyants qui s'impliquent dans l'œuvre avec de la reconnaissance et des louanges envers Dieu. Nous avons besoin de ces chrétiens qui sont animés de cet enthousiasme.
David organisa les louanges et les célébrations de l'Éternel. Il mit Asaph en charge, et Zacharie était avec lui. Verset 7. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Maintenant, un psaume termine le chapitre 16. En fait, c'est le texte que nous retrouvons dans le psaume 105. Si vous comparez les deux textes, vous verrez qu'ils se ressemblent. Les deux premiers versets du psaume 105 disent « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. » Mes amis, nous avons besoin de célébrer Dieu et d'en parler. Ceux d'entre vous qui connaissez le Seigneur Jésus, seriez-vous sauvés si personne ne vous en avait parlé? Seriez-vous venu au Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés si personne ne vous avait expliqué que vous pouviez le faire parce que le Seigneur Jésus a pris sur lui la punition méritée par vos péchés? Notre joie dans le Seigneur devrait attirer l'attention sur nous. Les gens devraient vouloir connaître d'où vient cette joie et cette paix que nous éprouvons. Ceci nous donne l'occasion de parler de l'Évangile et d'expliquer la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Les églises dont les membres connaissent la joie du salut et en parlent grandissent rapidement. En effet, l'Évangile est la solution de Dieu au problème du cœur de l'homme qui est méchant. Ce n'est pas la politique, ce n'est pas la philosophie ou la sociologie qui va régler les problèmes sociaux. Ils proviennent tous de la même source, du cœur de l'homme. Seule la Bible en reconnaît la méchanceté et en traite. Seul Dieu peut remplacer un cœur de pierre par un cœur de chair. Voilà le grand diagnostic de Dieu envers l'homme. Oui, l'homme est malade, chers amis. Il est malade spirituellement. Il est atteint d'une maladie incurable qui mène jusqu'à la mort. Cette maladie a un nom, le péché. Jésus-Christ est venu pour ôter le péché, pour apporter le remède et la guérison chez l'homme. Que fais-tu de cette intervention chirurgicale spirituelle que Jésus-Christ est venu faire accomplir ici-bas sur cette terre? Lui as-tu permis qu'il l'accomplisse dans ton cœur, dans ta vie, d'enlever le cœur de pierre qui s'y trouve, afin de pouvoir y installer un cœur de chair, un cœur qui pourra aimer Dieu et, par le fait même, le prochain, celui qui se trouve dans ton entourage, tout près de toi, dans ta famille, dans ton travail, dans ta banlieue, là où Dieu t'a placé, tu pourras maintenant le servir et accomplir des œuvres qui pourront le glorifier, l'honorer. À chaque instant, à chaque jour que Dieu t'accordera, tu pourras manifester cet amour et tu pourras également manifester cet enthousiasme dans ton service chrétien. En tant qu'enfant de Dieu, es-tu prêt à le faire? Tu n'as qu'à l'inviter et à lui dire « Je reconnais que je suis un être pécheur qui a besoin d'être sauvé. » Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission. 1 Chronique, chapitre 16, verset 8, à chapitre 17, verset 27.
Merci beaucoup, Régent. Mes frères, mes sœurs, Régent nous a posé une bonne question. Il nous a demandé si notre joie chrétienne attirait les gens au Seigneur Jésus. Il nous a mentionné que si nos églises sont mortes et que les gens n'y viennent pas, c'est qu'il n'y a pas de joie. Et c'est bien vrai que souvent, on retrouve plus de joie dans la foule qui assiste à un match de football que parmi les enfants de Dieu qui se réunissent pour célébrer Dieu. C'est vraiment triste. Mais David est réellement un bel exemple d'homme qui exprime sa joie devant le Seigneur. On a tout à gagner en l'imitant. Et non seulement dans notre assemblée le dimanche pendant les chants de louange, mais dans notre quotidien. Je sais personnellement que quand je suis dans une joie exceptionnelle, une joie qui vient de Dieu, les gens sont attirés à moi, voulant savoir ce qui m'anime ainsi. Malheureusement, je ne suis pas toujours comme ça. Que Dieu me pardonne, puisque j'ai tout pour être constamment dans la joie. J'ai la vie éternelle, l'assurance qu'un jour je vais monter au ciel pour passer l'éternité dans la présence de Dieu. Déjà, ça, c'est suffisant pour être heureuse, peu importe les circonstances. Vous trouvez pas? Beaucoup de croyants connaissent par cœur le 4e chapitre de Paul aux Philippiens au verset 4. Paul nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. On a même composé des chants avec ça. Si Dieu lui a mis à cœur d'ajouter « Je le répète, réjouissez-vous », c'est sûrement parce qu'on a de quoi se réjouir. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui te rend joyeux? Est-ce que c'est le succès à ton travail? Est-ce que c'est une augmentation de salaire? Est-ce que c'est un bon souper avec ta famille, avec tes amis? Je suis certaine que c'est bon de se réjouir de ces choses. Après tout, c'est Dieu qui nous les donne. Mais je crois que la plus grande joie, c'est celle d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit à ses disciples dans l'Évangile de Luc au chapitre 10, verset 20, de se réjouir de ce que leur nom était écrit dans les cieux. Mon ami, est-ce que ton nom est écrit dans les cieux? Est-il écrit dans le livre de vie? Dans le 21e chapitre de l'Apocalypse, au verset 27, il est écrit qu'il n'entrera dans la Nouvelle Jérusalem que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. La Nouvelle Jérusalem, c'est l'endroit que Dieu prépare pour tous ceux qui auront mis leur foi en Jésus seul pour le pardon de leurs péchés et le don gratuit de la vie éternelle. C'est un endroit formidable où on sera dans la présence de Dieu pour l'éternité. Mon ami, tu peux y aller. Ton billet est payé en entier. C'est Jésus qui l'a payé en mourant sur la croix pour toi. Maintenant, il te l'offre gratuitement. Place ta confiance en Jésus seul. Repens-toi. Change de direction à l'égard du péché. Demande à Jésus de te sauver, de te donner ton billet d'entrée pour la Jérusalem céleste, où tu pourras passer l'éternité dans la joie, dans la paix, dans l'amour que Dieu t'offre maintenant. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Demande-lui en ce moment. Tu ne sais pas si tu vas vivre demain. Dieu veut être ta joie, et pas juste sur cette terre, mais éternellement. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Et c'est certain que tu vas être avec lui pour l'éternité dans une très grande joie.
Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance.
Une minute, Régent. Est-ce que c'est compliqué, ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très, très intellectuel.
Hein? Rien de plus facile, Caro.
Oui.
Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison.
Oui.
De nous commander ces petits livrets. Et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions.
Est-ce qu'il y a beaucoup de
par cœur? En rapport avec le texte qu'ils auront lu. Du par cœur. Quasiment pas de par cœur.
Oui, c'est intéressant.
C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi.
Pour mieux connaître Dieu.
Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant.
Ah, ça, j'en suis certaine, Régent.
Il a des choses très importantes à partager avec nous.
J'ai le goût de m'inscrire.
Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance, à partir de chez vous. Pour toute correspondance.
Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
En composant le 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou via courriel
à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, Québec, G1G 6P2. À demain!
Oui!
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.